Good Morning Business, le grand débat.
Et notre grand débat aujourd'hui, c'est avec Stéphanie Hospital, bonjour, présidente de One Ragtime, Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil, bonjour, et François Cholet, président de Montségur Finance. On va commencer avec, on va commencer avec Davos. Il y a beaucoup de sujets à Davos, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de sujets. En tout cas, il y en a un qui retient notre attention, c'est celui du partage de la valeur. On a eu plusieurs entreprises, des grosses, hein, plutôt celle du CAC, qui a annoncé faire monter l'actionnariat salarié. On a vu Veolia, désormais les salariés, c'est le premier actionnaire de Veolia. Vous applaudissez des deux mains, Éric Delannoy.
On peut toujours applaudir des deux mains quand effectivement on cherche à associer les salariés à la valeur de l'entreprise. Simplement, il faut d'abord voir qui est capable de le faire. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est capable de le faire? Ce sont d'abord des grandes entreprises où les salariés sont pas les plus à plaindre. Hein, faut bien reconnaître. Je rappelle quand même que 20% des salariés dans 12 secteurs ont des salaires moyens à statut égal de 30 à 50% supérieurs au salaire moyen français. Et bien sûr, ça dépend de la taille, ça dépend des secteurs. Donc ce sont en fait ceux qui n'ont pas forcément les besoins qui vont être concernés. Et puis, pourquoi faire?
On parle. Ça ne ruisselle pas sur les autres entreprises?
Non, parce que c'est compliqué à mettre en place, d'abord. Et ensuite, on oublie toujours de dire que l'actionnaire salarié, on commence par un risque. Pour le salarié. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du partage de la valeur si l'entreprise se porte bien, mais c'est d'abord un salarié qui met de l'argent dans l'entreprise. Et il faut jamais oublier que quand on met de l'argent dans l'entreprise, on peut le perdre. Hein, donc, on n'est pas vraiment sur un véritable partage de la valeur tel que les autres mécanismes. Maintenant, on peut quand même le saluer parce que ça associe les salariés aussi à la décision des entreprises. Ils ont voix au chapitre, mais on n'est pas quand même dans le cas des mutualistes, hein, avec un homme, une voix. On est sur des minorités dans lesquelles on peut se dire que c'est aussi peut-être un prétexte pour légitimer une confiscation et une augmentation des dividendes.
Ce débat sur le partage de la valeur, Stéphanie Hospital, ça soulève la question de la rémunération variable pour des salariés, même avec des petits salaires. Et ça, c'est nouveau en France.
Alors, oui, en effet, c'est nouveau en France pour la plupart des secteurs d'activité. Alors moi, je suis patronne d'un fonds d'investissement, donc notre métier, c'est d'investir dans des start-up tech. Et le partage de la valeur en associant les salariés très tôt par des plans de BSCPE, ça fait partie du modèle. Je ne pense pas que pour les salariés, avoir du variable, que la plupart des salariés réalisent ce que ça veut dire. Et je partage tout à fait votre point de vue sur le fait que associer, c'est aussi associer au risque. Et le risque, c'est que parfois, on ne fait pas ses objectifs, donc on n'a pas sa part variable. Donc, il faut aussi savoir, je crois, doser la façon dont on va moduler la part variable pour les collaborateurs, l'association à la performance. Et ça, ça passe par des politiques RH, d'explication aux collaborateurs de ce que ça veut dire, en fait. C'est tu t'associes, mais ça veut dire que tu deviens solidaire des résultats de l'entreprise, que ce soit par de la part variable, parce que c'est aussi une forme d'association, hein, aux résultats, ou que ce soit par des actions de l'entreprise que tu vas acheter, et donc sur lequel tu vas avoir un risque derrière de potentiellement perdre ton valeur ou de succès.
Pensez que ça peut améliorer l'engagement ?
Je suis pas sûre que ça améliore l'engagement si on n'explique pas aux collaborateurs ce que ça veut dire. Je crois que dans le milieu des startups, et on le voit bien là encore chez One Ragtime dans nos startups, c'est que quand on explique aux collaborateurs que les plans de BSCPE, c'est plutôt réservé au management de l'entreprise, celui qui s'engage, et qu'après on va avoir des leviers autour de la participation, l'intéressement dès que les sociétés sont rentables, ça peut jouer beaucoup. Puis après il y a d'autres façons d'associer les salariés à la performance de l'entreprise. On a par exemple financé une société qui s'appelle Bénéfice, qui permet de visualiser et d'offrir aux collaborateurs des bénéfices. Et ça permet pour les collaborateurs de visualiser que l'abonnement Gym Libre, le ticket restaurant, la part variable, ça forme un tout dans la rémunération. Il n'y a pas que la partie fixe et variable.
Mais quand vous dites ça, ça participe pas à l'engagement, je veux dire, bah mince, c'était pas le but.
Alors, ça peut participer au désengagement, en fait.
Ah bah carrément.
Parce que si derrière, l'entreprise n'atteint pas les résultats, vous avez donc c'est beaucoup de pédagogie, en fait. C'est il faut le faire. C'est essentiel, c'est un facteur d'alignement des collaborateurs, mais attention à bien leur expliquer ce que ça veut dire.
Éric ?
Oui, il y a un vrai sujet quand même sur le fait que quand on dit attention à ce que ça veut dire, enfin ça marche bien dans les entreprises qui ont une culture forte et qui ont déjà engagé les collaborateurs, donc qui ont déjà une stratégie d'engagement. Donc ça marche bien, notamment les entreprises à mission, pour donner un pouvoir d'agir supplémentaire aux salariés. Mais quand même, aujourd'hui, encore une fois, faut voir qu'il y a d'autres idées qu'il faut mettre en avant sur le partage de la valeur, parce que quand on parle de l'actionnaire salarié, on revient sur une donnée sur laquelle on voulait sortir depuis une vingtaine d'années, qui est la financiarisation de l'économie. Enfin, je veux dire, que ce soit le dividende salarié ou que ce soit l'actionnaire salarié, on est sur une problématique où ils vont avoir de la valeur à travers les dividendes ou à travers la valorisation financière de l'entreprise.
Et ça, vous dites non?
C'est pas que je dis non, c'est que je dis qu'il faut faire autre chose en plus.
On va donner la parole à François Chollet. En 2020, François, 3,3% des entreprises du CAC et du SBF 120 étaient détenues en moyenne par leurs salariés. Vous dites que c'est le sens de l'histoire, l'homme de marché que vous êtes, ou est-ce que c'est de la démagogie?
Non, moi, je suis ravi de voir l'actionnariat salarié se développer. Après, on a des discussions, et notamment, vous en avez eu beaucoup sur ce plateau, sur la manière dont on peut parler de ce dividende salarié, le mot que je n'apprécie pas beaucoup. Mais c'est... Alors, pour le coup, il y a deux choses. D'abord, ça concerne plutôt le dividende salarié en termes d'actionnariat, c'est plutôt les grandes entreprises. Mmh. C'est très compliqué. Nous, on est une PME, par exemple. C'est extrêmement compliqué d'organiser la détention de titres dans le cadre des plans d'épargne, etc. Et l'organisation aussi de tout ce qui est assemblée générale, les échanges, la représentation de ces salariés dans un conseil d'administration, c'est un peu compliqué pour une PME, donc ça devient un peu difficile. En revanche, rien à voir avec l'intéressement, la participation qui là sont liés à du partage de profits simplement. On est en haut du compte d'exploitation et on se dit ben voilà, dès qu'on fait des profits, eh bien on en fait participer l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ça peut
c'est faire... pas variable en fonction enfin c'est
ça n'est obligatoire pour la participation sur une règle qui est obligatoire au-delà de 50 salariés. Généralisons cela pour que tous les salariés de toutes les entreprises de toute taille sont en capacité de bénéficier de d'une participation obligatoire. Là, pour le coup, c'est très facile. Tous les comptables savent la calculer, parce que c'est la même formule pour tous qui s'applique. Et on a une première étape de généralisation de ce partage. Et puis, on a des mécanismes qui sont en place, qui sont très puissants. Je pense à l'intéressement, je pense à l'abonnement, qui sont d'autres formes de contribution dans ces plans d'épargne d'entreprise ou ces plans d'épargne de retraite collectif. Là, c'est pareil. On atteint des niveaux possibles annuels très significatifs. Et là, encore une fois, ça nécessite effectivement des accords salariés, mais ça fait vraiment partie d'un package de rémunération extrêmement incitatif. Sachez qu'on peut aller jusqu'à 20% du salaire brut en intéressement. Jusqu'à des abondements de 300% pour l'intéressement également, pour les versements d'entreprise par entreprise. On peut avoir la même chose également sur le plan d'épargne retraite collective. Donc vraiment, si on multiplie ces dispositifs-là, on peut arriver à un vrai partage du compte de résultat pour les salariés. Et ensuite, le salarié peut choisir s'il veut en toucher une partie en termes de revenus, auquel cas, ben, c'est fiscalisé. S'il veut l'épargner dans un plan d'épargne, auquel cas, eh bien, il sera fiscalisé très faiblement, et l'entreprise également, puisqu'au bout de 5 ans, c'est acquis. Et puis, l'option de l'actionnariat salarié se pose, mais c'est à la main du salarié de choisir si, à un moment donné, il va convertir cet argent-là en action de l'entreprise. Moi, je trouve que c'est un système extrêmement vertueux. La seule chose que je souhaite expliquer, c'est que le dividende est la rémunération d'un actionnaire qui a pris le risque actionnarial.
Stéphane Hospital.
Alors, je partage tout à fait cette notion de risque. Et c'est ce qu'on voit, là encore, quand on investit dans des entrepreneurs, hein, dans des startups avec One Rack Time, c'est qu'on a une vraie logique d'identification de la valeur créée, parce que c'est le métier de l'investisseur, hein. Quand on met de l'argent dans une société, on se dit qu'à un moment elle va pouvoir créer de la valeur pour ses actionnaires, de la valeur pour ses fondateurs, mais aussi de la valeur pour ses collaborateurs. Cette valeur pour les collaborateurs aujourd'hui, elle est souvent pas toujours très bien expliquée, parce que elle associe aussi cette notion de risque, hein, qui est là permanente dans la notion d'investissement financier. C'est pareil, à partir du moment où vous associez des collaborateurs par des logiques actionnariales, il faut bien comprendre qu'un actionnaire, il est là dans les bons moments, mais aussi quand ça va un peu moins bien.
Ce qui n'est pas le rôle du salarié, d'avoir cette vision.
Et vous avez plein d'autres moyens pour engager vos collaborateurs. Déjà, partager la mission de l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes collaborateurs, ce qui les motive le matin, c'est aussi de se dire qu'ils vont avoir un impact, que ce qu'ils vont faire va répondre à des enjeux sociétaux. Et je crois que là, in fine, on est en train de se dire que rémunération, c'est du management. Donc c'est un.
Je sais, Eric, que sur la mission, vous êtes très attaché à la question de la mission. Sincèrement, quand on lit les missions des entreprises, il y en a une sur deux qui veut rien dire, qui a été faite par un cabinet de marketing. Enfin,
alors, parfois,
on n'y croit pas.
Je vais un peu nuancer, parce que notre métier, c'est d'ailleurs d'aider beaucoup les entreprises à mettre en place ces systèmes-là. Effectivement, la mission ne fait pas tout. Ce qui fait l'intérêt des entreprises à mission, c'est la mission, les engagements qu'on prend qui vont venir opérationnaliser les missions et les objectifs opérationnels qu'on va mettre en place opérationnellement. C'est ce qu'on appelle le cadre d'engagement qui compte. La mission elle-même, ça peut être un slogan.
Mais ça s'appelle le monde idéal.
Non, ça s'appelle ce que font beaucoup d'entreprises. Regardez la Maif, regardez le Crédit Mutuel, regardez Tenzing, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place un système dans lequel ils prennent des engagements, ils mettent des objectifs opérationnels derrière ces engagements et ils font la preuve qu'ils tiennent ces engagements. C'est ça la notion du nouveau capitalisme. Et quand on voit ce qu'a fait la Maif, quand on voit ce qu'a fait le Crédit Mutuel, et je reprends ce que dit madame sur l'engagement des collaborateurs.
Faire donner une partie des bénéfices.
Oui, on est sur un dividende 10-15% d'un troisième type qui consiste à dire aujourd'hui dans la création de valeur, il n'y a pas seulement les actionnaires qui prennent le risque, les salariés qui produisent la valeur, il y a aussi l'environnement, le social qui eux aussi nécessite qu'on prenne soin d'eux et qu'on rémunère un petit peu cet environnement et ce social. Quand la Maif, par exemple, va aider ses clients à rénover leur logement, ça prend en compte quoi ? Ça prend en compte le fait que cet argent aurait pu aller à leurs salariés. Mais leurs salariés, déjà, sont mieux lotis que la plupart de leurs sociétaires, qui sont des professeurs, qui n'ont pas les moyens, quelquefois, de faire les travaux pour leur logement de rénovation. Et donc, de prendre une partie des bénéfices et les mettre au service de leurs clients, c'est aussi une manière de rendre à la société ce qu'elle a permis de créer. Donc, on n'est plus sur un arbitrage actionnaire-salarié, mais un triptyque actionnaire-salarié-environnement.
Vous aimez pas trop le dividende salarié, François. Est-ce que vous aimez bien le dividende sociétal ?
Alors, le green dividend, on en fait la promotion. Pour le coup...
Vous appelez ça le green dividend ?
Oui, c'est-à-dire le fait que l'entreprise réserve une partie de ses profits pour des projets pas forcément rentables à vocation environnementale. On en fait la promotion lorsqu'on discute dans nos démarches ESG auprès des dirigeants et des responsables des relations avec les investisseurs, donc les entreprises dans lesquelles on investit pour le compte de nos clients. Eh bien, ça fait partie des sujets qu'on met sur la table pour essayer de les convaincre de l'intérêt ou du bien fondé qu'il peut y avoir à avoir ce genre de mise en place, parce que ça, c'est porteur de beaucoup de sens.
Sauf que là, c'est la Maif et le Crédit Mutuel. Est-ce qu'il va y avoir d'autres boîtes ? Enfin, vous m'auriez dit, tiens, qui va faire ça ? Je vous aurais dit, la Maif et le Crédit Mutuel avant même qu'ils le fassent.
Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais il y a des entreprises capitalistes qui sont en train d'y réfléchir. Peut-être pas autant de 15%, mais entre 5 et 10%. 5 et 10% sur le CAC 40, ça fait 3 fois le budget de la culture par an quand même.
Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on aborde un autre sujet avec Stéphanie Hospital, notamment la French Tech qui résiste. Les levées de fonds des start-up françaises ont battu des records. 13,5 milliards d'euros levés auprès des investisseurs l'an dernier. C'est ce qui ressort du dernier baromètre EY. Progression en valeur de 17%, mais en volume, le nombre d'opérations est en baisse de 6%.
Alors, c'est logique, hein. On est aujourd'hui dans une phase de sélection, de sélectivité. Donc, l'an dernier, on a battu des records avec ces 13 milliards à comparer encore à 27 milliards en Angleterre. Donc, on a dépassé l'Allemagne, mais on est encore loin de l'Angleterre. Donc, ça veut dire qu'on a encore beaucoup à faire collectivement pour pouvoir mobiliser l'épargne des entreprises, des salariés, des retraités. Alors, ça, c'est un point important vers l'investissement. On voit que l'investissement, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer de l'impact. Moi, je reprends de la discussion qu'on a eue précédemment. On a financé une société avec Point Time qui s'appelle Captain Cause, Frédéric Mazella, Georges Bazdevant, qui permet aux entreprises d'aller à l'échelle financer des causes autour du climat, de l'éducation, de la santé, en mobilisant les budgets de l'entreprise. Donc là, on voit bien que l'investissement, la tech, ça peut permettre à la fois de créer de l'emploi, mais ça aussi peut permettre d'aller trouver des solutions pour avoir plus d'impact sur l'environnement, plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Donc, continuons à investir et je crois que cette année 2023 va être cruciale pour que les investisseurs continuent à mobiliser leur argent dans des vrais projets, dans des entreprises à croissance. Et les chiffres que j'ai de l'investissement des institutionnels, notamment on parlait de tous ces grands assureurs, cette année est plutôt à la baisse. Donc j'ai un message à leur faire passer. Continuez d'investir. Le dur, le vrai, la création d'emplois, elle se fait dans les startups.
Mais comment voyez 2023 ? Parce qu'on est quand même sur la fin de l'argent gratuit. Ça va se tarir quand même un peu.
Alors, il n'y a jamais eu d'argent gratuit, je crois. Il
y a
les conditions de financement se sont durcies.
Alors, certes, mais quand on regarde aujourd'hui ce que ça a donné en termes de création d'emplois, de compétitivité, il y avait le CES la semaine dernière, la French Tech, elle était là, elle rayonnait, mais pas simplement pour des innovations gadgets, mais pour des choses structurantes. Donc, je crois qu'on est aujourd'hui dans un tournant où 2023, il va falloir qu'on montre qu'on est capable de continuer à créer la confiance parmi les investisseurs et aussi aussi parmi les entrepreneurs, parce que ce qu'on a vu dans le dernier semestre, c'est qu'il y a une baisse du nombre de projets, donc on est plus sélectif, mais aussi peut-être moins de projets. Donc, entreprenez, continuez d'entreprendre, parce que c'est ça qui fera les emplois de demain.
François Cholet.
Le baromètre de ces arbitrages, c'est le taux d'intérêt sans risque, entre guillemets, puisque on parlait, il n'y a pas d'argent gratuit, mais quand même, quand les taux d'intérêt sont négatifs et que effectivement on est pénalisé à conserver de l'argent sur son compte, ça favorise les investissements un peu plus risqués que sont les investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées. Donc il y a la première exigence, c'est quand même trouver les capitaux pour financer cela, alors que l'argent sans risque va se mettre à rémunérer de manière significative. Je rappelle que le 2 février, on aura encore une nouvelle hausse de la Banque Centrale Européenne sur les taux directeurs. Donc, ça veut dire que les placements monétaires vont devenir, et vous en parlez souvent aussi, du livret A. On atteint les 3%, donc on arrive quand même à quelque chose qui n'est pas zéro. Et puis l'autre sujet, c'est qu'il faut que les marchés financiers soient le débouché naturel pour ces entreprises du private equity. Ça veut dire que les valorisations des marchés permettent à des entreprises non cotées de retrouver derrière le public et le grand public pour effectivement justifier les valorisations qu'elles ont pu atteindre. Alors, on a parfois des décalages. On a vu ça en 2022 avec des très fortes corrections sur certains actifs non cotés. Je pense à l'immobilier. L'immobilier coté a perdu 45% en 2022. Le private equity n'est pas encore marqué comme ayant été corrigé des taux de capitalisation liés à la remontée des taux. Il n'empêche, il faut que les marchés financiers se portent bien pour que le private equity amène ses entreprises sur la partie cotée, ou alors on va avoir un écosystème totalement indépendant avec parfois des valorisations qui vont se retrouver bien supérieures à ceux des marchés financiers.
Stéphanie parlait à l'instant de sélectivité. Est-ce que finalement cette remontée des taux et le fait que l'argent soit moins facile, moins disponible, ça ne va pas amener les investisseurs à réfléchir davantage? On sort quand même de quelques années d'excès où il suffisait de lever la main pour obtenir des capitaux. Je caricature, mais à peine.
Les taux zéro permettent à des entreprises qui n'ont pas une rentabilité du capital suffisante de se maintenir en vie. Et donc, ces entreprises-là n'ont pas vocation à durer, parce que si elles n'arrivent pas à justifier d'une certaine marge de profitabilité, elles n'ont pas une capacité à passer les prochaines crises dès lors qu'il n'y aura plus les aides à l'infini.
Il nous reste une minute, du coup vous aurez 30 secondes chacun.
Oui, simplement, Eric. Moi je pense qu'on va revenir sur des conditions de pression et de température qu'on existait avant, c'est-à-dire qu'en gros il y a eu effectivement beaucoup de projets qui avaient peu de modèles économiques et qui étaient financés quand même, avec l'espoir peut-être non pas d'être rentable un jour mais de pouvoir être racheté par une autre entreprise. Ces entreprises-là vont avoir des difficultés à faire la deuxième série et on va les voir capoter. Donc on va revenir sur cette sélectivité qui consiste à prendre des projets qui sont peut-être un peu plus rentables et qui ont peut-être un peu plus d'avenir.
Stéphanie. Alors, nous, ça tombe bien. Chez One Rectum, on a toujours aimé les projets capital efficaces. C'est-à-dire, on a un entrepreneur qui a une idée, un projet, et qui, derrière, va mettre des moyens à la hauteur de cette ambition, mais en même temps, de manière raisonnable. Donc, c'est, là encore, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus débattre avec nous dans Good Morning Business.